Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe de l'heure du crime pour une nouvelle édition de ce magazine consacré, vous l'avez entendu peut-être juste avant le flash, aux plus belles des belles évasions de ces dernières années en France et dans le monde. Je vous donne tous les détails dans un instant et puis on va en parler et nous serons accompagnés jusqu'à 15h par Virginie qui est restée dans le studio. Bonjour Virginie.
Je suis renfermée dans le studio avec vous jusqu'à 15h.
Bon, j'espère que c'est pas une trop grande torture.
Pas du tout. Pendant l'émission, appelez-nous au 3210 ou encore envoyez un mail via la page de l'heure du crime sur rtl.fr et puis posez toutes vos questions ou témoignez sur les histoires d'évasion les plus spectaculaires que vous allez nous raconter avec votre invité Jacques Pradel.
Voilà, vous pourrez vous évader mais à 15h. Alors, tout de suite, on va se mettre dans le bain, avant de bavarder avec mon invité Franck Sénateur, on va se mettre dans le bain de ces évasions qui souvent ressemblent à des scènes de film. Et une scène de film décrite par un journaliste d'RTL, on en a trouvé une dans les archives de la rédaction. Le journaliste, c'est Alain Hamon. Nous sommes le 26 mai 1986, il est 13h.
C'est 10h40 environ, quand l'hélicoptère a survolé le quartier de la Santé en volant très très bas. Mais au début, peu de gens se sont étonnés car il arrive quelquefois que des hélicos sanitaires se posent sur les boulevards proches pour transporter des grands blessés dans les hôpitaux du quartier. Alors c'est lorsqu'il s'est approché en rase-mode vraiment, et cette fois-ci de la prison, des murs de la prison, qu'un témoin a commencé à se poser des questions. Je vous propose tout de suite de l'écouter.
Moi, j'ai vu un hélicoptère qui est déboîté du boulevard Saint-Jacques. Après, ça a baissé sur la prison de la Santé, mais il ne s'est pas posé, quoi. Bon, puis les gardiens de la paix ont été surpris parce qu'ils n'ont pas réagi de suite. Hein, même moi, je me suis d'ailleurs trouvé bousculé par les gardiens de la paix. Et, bon, ils ont dégainé leur arme, mais ils sont restés là quelques temps sur le trottoir et tout, prenaient position. Et après, j'ai vu l'hélicoptère décoller en portant un individu accroché sur les rebords. Et puis, l'individu tenait une arme dans la main qu'il a laissé tomber à l'intérieur de la prison. Et là, après, ensuite, les policiers se sont mis à courir un peu partout. On ne voyait plus du tout l'hélicoptère, hein, de vue de l'extérieur. Mais on voyait les pales encore, donc c'est qu'il ne s'était pas posé parce que c'est impossible de se poser dans la prison. Hein.
Voilà, un témoignage recueilli par Alain Hamon le 26 mai 1986, quelques minutes après une des évasions les plus spectaculaires de l'histoire pénitentiaire française dans l'hélicoptère. L'individu que le témoin voyait monter, il s'appelait Michel Vaujour, et on découvrira beaucoup plus tard que le pilote de cet hélicoptère était une femme, et que c'était la compagne de Michel Vaujour, Nadine. Bonjour Franck Sénateur.
Bonjour.
Alors, on est dans le bain, comme je le disais il y a un petit instant. Je voudrais simplement compléter la présentation en disant que vous êtes enseignant, que vous êtes passionné d'histoire sociale et spécialiste en histoire pénitentiaire. Donc c'est le bagne, c'est la prison et c'est forcément les évasions, parce que on le découvre en lisant le livre que vous publiez cette semaine. Il est sorti hier à la Manufacture de Livres. On découvre que en fait, l'évasion, vous dites dans votre préface, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? L'évasion, tous les prisonniers y pensent, et souvent dès les premières minutes où ils sont enfermés.
Tout à fait. Vous citiez effectivement cette évasion remarquable de Michel Vaujour, qui est un garçon qui, par ailleurs, donc s'est complètement réinséré et a maintenant une vie extraordinaire dans la société. Il dit lui-même en préambule, prison, en définition, prison, deux points, endroit d'où l'on doit s'évader. C'est-à-dire qu'effectivement, la prison, c'est l'endroit dont chaque condamné, à partir de son entrée, ne cesse de penser à s'enfuir.
Alors, le chercheur qui s'intéresse aux prisons ne peut pas passer à côté de ce sujet des évasions. Votre livre s'intitule « Planète évadée ». Est-ce que vos lecteurs ou vos étudiants ne vous disent pas « mais finalement, vous nous dorez la pilule et vous transformez en héros des gens qui ne sont pas très fréquentables, finalement ».
C'est effectivement le risque. Je crois que, avant tout, c'est une histoire sociale, c'est une histoire humaine. C'est à ce titre-là qu'elle est importante, qu'elle nous touche tous, parce que, de toute manière, sans avoir été pour autant en prison. Mmh. On est tous intéressés par le sujet parce que, effectivement, on côtoie, on vit autour d'une prison. La prison fait partie, est un instrument de la vie politique et sociale. Et donc, on voit bien que c'est quelque chose qui nous touche tous.
Alors, vous, les récits que vous avez recueillis dans votre livre, ils sont très, très nombreux, ils sont souvent très, très spectaculaires. C'est pas uniquement pour la beauté du récit que vous les avez réunis.
Non, tout à fait, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Dans un premier ouvrage qui s'appelait Évadé, qui a été publié en 2008, j'avais essayé de cerner un certain nombre de qualités et de voir le côté psychologique de l'évadé, c'est-à-dire non pas le fait divers et la manière technique dont on va s'évader, mais pourquoi on s'évade et qui s'évade. Et puis là, donc, avec la Manufacture de Livres, qui est une maison d'édition jeune mais dynamique, avec 40 titres hein, à son catalogue déjà, l'idée c'était de dire, mais finalement, le contexte mondial, est-ce qu'on s'évade plus en France ou pas? Et finalement, peut-on faire un petit tour d'horizon de ces fameuses évasions?
Alors évidemment, quand on parle évasion, prison, il y a une image qui vient tout de suite, c'est cette prison au centre de la baie de San Francisco, Alcatraz. Vous dites que c'est l'île du diable américaine. Les Américains l'appellent The Rock, hein, le rocher. Et c'est là qu'on a mis, à partir de 1936, les prisonniers les plus dangereux d'Amérique. D'ailleurs, le plus célèbre, c'est Al Capone, hein, qui a été envoyé là-bas. Alors, on disait qu'on ne pouvait pas s'échapper d'Alcatraz, d'abord parce qu'il y avait des requins qui pullulaient dans la baie, mais vous dites, vous, c'est pas des requins mangeurs d'hommes.
Voilà, il y a toujours en fait une faille dans le système. Hein. C'est finalement ce que chaque prisonnier va s'évertuer à découvrir et va mettre toute son énergie, toute sa compétence et tout son sens de l'observation pour le découvrir. Alcatraz, ce qui est original dans cette prison, puisque vous en parlez, c'est que effectivement c'est une des rares prisons américaines à être insulaire. C'est plutôt une technique européenne,
fermée depuis 63. Hein, bon. Mais on la visite, paraît-il. Maintenant, c'est un lieu touristique
dans la légende. Mais c'est vrai que ce côté prison insulaire, c'est plutôt une tradition européenne, on va dire. Vous savez que dans notre système pénitentiaire colonial, donc vous évoquiez l'île du diable, les bagnes de Guyane avaient d'abord été implantées sur des îles. Ouais. En Nouvelle-Calédonie, même chose. En Indochine, dans tout l'empire colonial français, finalement, on va rechercher des îles parce qu'on considère que c'est plus difficile de s'évader d'une île. Et donc, il est plus facile d'y garder les détenus. Ouais. L'histoire, après, prouvera que c'est pas forcément vrai.
Oui, voilà, parce qu'on a dit qu'aucun prisonnier n'avait jamais pu s'échapper. Bon, bah, on reviendra hein, à Alcatraz dans le cours de cette émission. Et vous nous raconterez l'histoire d'abord de l'évasion la plus spectaculaire collective, ils étaient trois, d'Alcatraz. En même temps, on n'a jamais retrouvé les corps. Et on peut penser que l'un des trois a véritablement réussi à s'échapper d'Alcatraz. Dans un petit instant, je vous raconte une autre histoire, celle de Pascal Payet. C'est un multi-récidiviste de l'évasion. Il adore l'hélicoptère. Je vais vous raconter cette histoire et on en parlera bien sûr après avec Franck Sénateur.
Votre métier, c'est de faire de délicieux croissants, de coiffer ses dames ou de créer de jolis bouquets. Le nôtre, c'est de vous proposer les meilleures solutions en matière d'énergie.
Votre conseiller EDF Pro vous aide à réaliser des économies d'énergie. Plus d'informations au 0810 333 776 et sur edfpro.fr. Prix d'un appel local hors surcoût éventuel selon l'opérateur. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
En podcast comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'histoire que je vais vous raconter maintenant est celle d'un homme qui, à l'heure actuelle, a passé, on peut le dire, autant de temps derrière les barreaux qu'en liberté. Première condamnation à l'âge de 20 ans pour vol de voiture. La plus récente, devant les assises de Nice, c'était le 24 juin 2008. 15 ans de réclusion criminelle pour deux vols de voiture à main armée et tentative d'homicide en 2002 lors de sa première cavale. Octobre 2001, Pascal Payet s'évade de la prison de Luynes en hélicoptère. Des complices viennent le chercher dans la cour de la prison juste avant un procès qui s'annonçait mal pour lui. Il risquait d'être condamné en effet à 20 ans pour le braquage d'un fourgon blindé au cours duquel un convoyeur avait trouvé la mort. Il avait finalement été condamné par contumace à 30 ans de réclusion pendant sa cavale. 2 ans après cette première évasion, on n'entend plus parler de lui. La police pense qu'il est allé se réfugier peut-être à l'étranger, mais on n'en a pas la moindre preuve, aucune piste à suivre. La surveillance de son entourage, de sa famille, des truands qu'il fréquente habituellement ne donne rien. Et il faudra attendre le 14 avril 2003 pour avoir enfin de ses nouvelles. Et quelles nouvelles ! Avec un sens du panache incroyable ou une inconscience totale, comme on voudra, Pascal Payet a en effet décidé de revenir à la prison de Luynes pour faire évader ses complices du braquage du fourgon blindé. Et il s'y rend comment ? Il s'y rend en hélicoptère. 14 avril 2003, c'est un lundi. Un détenu particulièrement surveillé reçoit pourtant dans sa cellule un coup de téléphone sur le portable qu'il a réussi à se procurer. Malgré un bruit assourdissant de pales d'hélicoptère, il reconnaît la voix de Pascal Payet. Ce message est bref, il dit « On arrive, préparez-vous ». Quelques instants plus tard, l'hélicoptère survole la cour de promenade grillagée et surmontée de filins anti-hélicoptère. Un homme saute de l'appareil, il est muni d'une cisaille avec laquelle il découpe un carré de quelques dizaines de centimètres dans le toit grillagé de la cour. De l'hélicoptère en vol stationnaire se déploie alors une échelle de corde. Deux détenus commencent à grimper. Surprise, un troisième homme qui ne semblait pas avoir été prévu se dirige lui aussi vers l'échelle et se hisse jusqu'à l'appareil. Il veut profiter du voyage. Là-haut, il est bien sûr trop tard pour discuter et l'hélicoptère s'éloigne tranquillement de la prison. Tranquillement, car il ne risque pas en effet d'être abattu. Les consignes de l'administration pénitentiaire sont connues. Pas de coup de feu, car l'appareil risquerait de se cracher dans la cour de la prison ou sur les maisons voisines. Et personne, bien sûr, ne veut prendre ce risque. À bord de l'appareil se trouvent Éric Alboréo et Michel Valero qui ont tous deux tenté de dépouiller deux convoyeurs de billets de la Banque de France de Salon de Provence. Bilan, un convoyeur criblé de 14 balles de Kalachnikov qui décédera peu de temps après. Et c'est eux que Pascal Payet est venu délivrer. Le troisième fugitif, celui qui a profité de l'opportunité pour se greffer sur l'opération Évasion, s'appelle Franck Perletto, un Toulonnais qui passe pour être avec son frère un des parrains du milieu varois. Les autres ne le connaissent pas et il disparaîtra d'ailleurs dans la nature après que l'hélico se sera posé dans la campagne. Pendant ce temps, bien sûr, en bas, c'est le branle-bas de combat chez les policiers qui activent leurs indicateurs dans le milieu des truands, qui envoient illico des fiches de recherche à tous les services de police de France et de Navarre, sans oublier leurs collègues des pays frontaliers. Et c'est justement de Suisse que va parvenir quelques jours plus tard une information capitale. Un buraliste, marchand de journaux, reconnaît à son accent du Sud l'un des fugitifs dont la photo accompagnait un article racontant la spectaculaire évasion de la prison de Luynes. Il prévient la police suisse qui répercute l'information au quai des Orfèvres et lorsque, quelques jours plus tard, les voyous reviennent en France avec des voitures volées en Suisse, ils sont suivis et ils mènent les policiers jusqu'à un petit village du Vaucluse où se trouve leur planque, une maison d'hôte. La police donne l'assaut à 6h du matin. Et on trouvera dans cette maison, soigneusement dissimulée dans leur chambre, tout un arsenal constitué de pistolets, de munitions, de gilets pare-balles et une somme de près de 100 000 euros. Fin de cavale donc pour les fugitifs qui se retrouvent tous en prison après seulement 23 jours de liberté. Pascal Payet a droit bien sûr à un régime particulièrement sévère. Il est incarcéré à la prison de Grasse, où il va demeurer 4 ans jusqu'en juillet 2007, date d'une nouvelle évasion, organisée cette fois par de vieux complices à lui de braquage, complices qui ont choisi également d'utiliser un hélicoptère. On ne se refait pas. La dernière évasion de Pascal Payet va donc avoir lieu le jour du 14 juillet 2007, et nous avons retrouvé dans les archives d'RTL le récit de cette évasion. Pierre Thébault raconte.
Comme au cinéma, scénario classique mais imparable, une belle part hélico, tous les gardiens le disent, il n'y a pas grand-chose à faire. 18h15 hier, à l'aéroport de Cannes-Mandelieu, quatre hommes puissamment armés et encagoulés prennent en otage un pilote de la société Azur Hélicoptère. En vol, ils le contraignent pistolet sur la tempe à prendre la direction de la maison d'arrêt de Grasse. Sur place, moins d'une demi-heure plus tard, l'appareil se pose sur le toit de la prison. Le commando trouve et prend en charge Payet. L'appareil redécolle très vite, direction le département du Var. À 19h30, tout est terminé, il se pose à Brignoles. Le pilote est relâché, indemne. Payet et ses amis s'évanouissent dans la nature. Un dispositif de 150 gendarmes est mis en place, en vain. À 43 ans, Payet n'est pas un néophyte en matière d'évasion, ce n'est pas un voleur de poules. Disent de lui ses gardiens, en 2001, il s'échappe de la prison de Luynes. 2 ans plus tard, il va en extirper 3 complices. À Grasse, hier, 14 juillet, en l'absence de grâce présidentielle, Payet s'est pour ainsi dire gracié lui-même. La garde des Sceaux, Rachida Dati, est attendue sur place dans la matinée.
Il faut dire que la cavale durera un tout petit peu plus de 2 mois, 2 mois et quelques jours, et il sera repris le 22 septembre suivant en Espagne, et condamné plus tard, comme je le disais tout à l'heure, à 15 ans de réclusion en 2008. Alors, Franck Sénateur, il semble que, comme Pascal Payet, beaucoup de ceux dont vous parlez dans votre livre sont beaucoup plus doués pour les évasions que pour la cavale.
Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, les policiers en fait qui ont arrêté Pascal Payet en Espagne le signalaient eux-mêmes, et l'un d'entre eux disait s'il est considéré comme un as de l'évasion, il est un piètre fugitif. Bon, c'est vrai qu'il y a 2 choses. Il y a les qualités nécessaires pour arriver à s'évader, et après, tout ce qui va être la logistique très lourde et très compliquée qui va permettre de vivre la cavale.
Bien sûr. Et donc, vous racontez comment les policiers, en fait, en suivant, évidemment, des complices de Payet, ont suivi ces voitures jusqu'en Espagne. Ils ont appelé leurs collègues de la police espagnole, et tout le monde s'est fait prendre dans un magnifique coup de filet. Dans un petit instant, nous allons vous raconter, avec Franck Sénateur, l'incroyable évasion par fax de la prison de Borgo. C'était le jeudi 31 mai 2001.
Votre métier, c'est de faire de délicieux croissants, de coiffer ses dames ou de créer de jolis bouquets. Le nôtre, c'est de vous proposer les meilleures solutions en matière d'énergie.
Votre conseiller EDF Pro vous aide à réaliser des économies d'énergie. Plus d'informations au 0810 333 776 et sur edfpro.fr. Prix d'un appel local, hors surcoût éventuel selon l'opérateur. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Aucune prison au monde n'est infaillible, c'est ce que dit dans son livre mon invité Franck Sénateur, qui nous raconte les évasions les plus incroyables qui se sont passées dans le monde entier depuis une bonne quarantaine d'années. Planète évadée, c'est le titre de ce livre qui vient de paraître à la manufacture de livres. Alors justement, j'ai découvert une chose en lisant votre livre, Franck Sénateur, c'est que, et là on quitte, on va dire, les rois de la belle, les rois de l'évasion, les malfrats qui entrent et sortent de prison et qui additionnent les évasions spectaculaires. Mais il y a également l'utilisation de moyens de communication extrêmement modernes qui peuvent faire basculer un pays. C'est ce qui s'est passé en Égypte.
Tout à fait, tout à fait. Il y a effectivement, bon, d'une part, une modernisation des moyens, puisque bien sûr, donc, les évasions vont suivre les progrès techniques et technologiques. Mais en Égypte, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. On a vu qu'en principe, en Afrique, on avait plutôt affaire à des évasions de masse que à des évasions individuelles. Et en Égypte, donc, en janvier 2011, la révolution, cette fameuse révolution Facebook, donc, qui semble un modèle de démocratie, finalement, va commencer par l'attaque systématique des prisons autour du Caire et du pays, qui vont être vidées. Là encore, on peut penser que c'est dans un souci de démocratie absolue. Or, on s'aperçoit que c'est effectivement un mouvement islamiste qui va exploiter ce phénomène-là, et que donc les principaux condamnés pour terrorisme, je mets des guillemets entre le mot terrorisme, mais qui vont s'échapper ce jour-là, donc vont rejoindre effectivement le camp des frères islamistes.
C'est ça, et donc ce sont des mouvements islamistes qui ont profité de Facebook pour dire à la population, voilà, il faut attaquer les prisons, quoi. Et évidemment, c'était des opérations extrêmement complexes, et tous les spécialistes dont vous êtes pensent qu'on ne pouvait pas réaliser autant d'évasions d'autant de prisons en même temps. S'il n'y avait pas eu vraiment une sorte un chef d'orchestre, en fait, qui pourrait peut-être se trouver du côté de l'Iran. Enfin, ça, c'est un autre problème, et je renvoie tout le monde à votre livre de ce côté-là. Facebook. Facebook, vous en parlez aussi à travers une autre histoire. Alors, celle-là, on peut la raconter avec le sourire, parce que Facebook s'est un peu retourné contre le personnage dont on va parler maintenant. C'est un garçon qui s'évade d'une prison en Australie.
Voilà, tout à fait. Alors, effectivement, donc, bon, Facebook est très lié en ce moment involontairement aux évasions. Ce garçon, donc, a la particularité d'être dans un centre de détention de Tasmanie. Mais effectivement, il va utiliser Facebook pour annoncer ouvertement, donc, qu'il a l'intention de s'évader et donc le mettre.
Mais personne après, n'a lu. Personne n'a lu. Ou alors, les juges et les gens de l'administration pénitentiaire ne comptaient pas parmi ses amis, ce qui serait pas étonnant. Voilà, mais donc, il avait dit ça quand même des mois avant, en disant, vous verrez, bientôt, je serai plus là, quoi.
Voilà, c'est
et
ça. C'est une espèce de bravade. Bon. Et donc, il va annoncer son évasion sur Facebook. Et ensuite, il ira jusqu'à avoir le culot de modifier son statut en mettant qu'il passe du statut de célibataire quand il était en prison à celui de marié, puisqu'il retrouve vraiment sa petite copine à l'extérieur.
Sa petite copine avec qui il se marie. Mais ça, ça se retourne contre lui parce que c'est comme ça qu'il va se faire avoir, je crois.
Voilà, et de toute manière, effectivement, bon, on se rendra bien compte, on a quand même quelque part un peu l'illusion et le sentiment, mais on va se rendre compte que les amis Facebook ne sont pas forcément les vrais amis.
Alors, on va parler maintenant, évoquer, puisqu'on parle des moyens de technologie moderne, avant Facebook, avant même l'Internet, il y avait déjà le fax. Et nous allons faire un petit saut dans le temps, nous retrouver le jeudi 31 mai 2001. Ce jour-là, trois détenus fichés au grand banditisme s'échappent de la prison de Haute-Corse de Borgo, mais ils s'échappent par la porte. Alors, explication, eh bien, c'est grâce à un faux document judiciaire qui ordonnait leur remise en liberté que l'administration de la prison a été bernée. C'est une certainement des plus belles évasions de ces 40 dernières années. Et sur RTL, quelques jours plus tard, on entendait le récit de notre correspondant sur place, Jean-Claude Lanfranchi.
C'est du jamais vu dans l'histoire des évasions. Pas d'hélicoptère, pas de coup de feu, pas de prise d'otage, mais un fax, un simple fax, signé de Patrice Cambérou, le juge d'instruction d'Ajaccio, qui a notamment eu en charge le dossier du préfet Bonnet. En quelques lignes, parfaitement rédigées, le magistrat ordonne la mise en liberté de trois détenus de la maison d'arrêt de Borgo, écroués depuis juillet dernier, pour tentative d'extorsion de fonds, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes. Fiché au grand banditisme, membres présumés de la fameuse bande de la Brise de Mer, les trois hommes ont vu s'ouvrir devant eux les portes de la prison d'où ils sont sortis tranquillement jeudi dernier. Ébruité seulement hier, l'affaire a provoqué, on l'imagine, de vives réactions au parquet comme au ministère de la Justice. Une enquête a bien sûr été ouverte pour déterminer les responsabilités et d'éventuelles complicités. D'où vient le fax? Qui l'a rédigé? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de vérification, de demande de confirmation d'une mesure somme toute étonnante? Au tribunal, au service de police judiciaire, à la prison de Borgo, c'est pour l'instant le silence radio. Quant aux évadés, ils courent toujours, sans doute avec la satisfaction légitime d'avoir réussi un coup unique dans les annales.
Alors, il faut dire, Franck Sénateur, d'abord qu'ils ont été repris, mais ça, on en parle dans un instant. Un certain nombre de gens ont dû se faire remonter les bretelles, quand même. Et alors, vous publiez d'ailleurs une partie du texte de ce fax. Il y a des fautes d'orthographe qui n'ont été vues par personne.
Alors effectivement, il y a dans toute évasion, on sait que bon, il y a des qualités qui sont minables, mais il faut une part de chance quand même. Et donc une part de routine aussi, c'est là-dessus que compte la plupart donc des postulants à la belle. Et donc là, il va y avoir la conjugaison des deux. Alors évidemment, aucune discrimination sur la prison corse. Hein, on est évident que ces fonctionnaires font leur travail le mieux possible, mais ils ne vont pas s'apercevoir qu'effectivement le nom du juge est écorché. Ensuite, il va y avoir un échange de fax parce qu'ils vont vérifier quand même.
Ça, c'est formidable. Attendez, la prison répond en disant, mais vous êtes sûr que vous voulez bien libérer quand même ces trois membres du gang de la Brise de Mer, quoi.
Voilà, là, c'est trois clients.
Et alors là, la chance est à nouveau avec les futurs évadés. Pourquoi?
Parce que le fax de la maison de détention arrive sur un fax qui n'a pas de papier. Et donc, on est en veille de week-end. Et dans le bureau du juge, donc, le fax n'a pas été rechargé et va rester tout le week-end en attente donc de décerner ce message.
Absolument extraordinaire. Et le juge dont le nom était écorché était en vacances, je crois, depuis 4 semaines.
Ouais,
hein, voilà. Au passage. Alors, les trois évadés, c'était Francis Mariani, Pierre-Marie Santucci et Maurice Costa, donc trois figures de la Brise de Mer. Il faut dire qu'ils ont tous été, tous les trois, repris quelques mois plus tard. Et depuis, d'ailleurs, deux sur les trois ont eu un destin funeste, puisqu'ils ont été assassinés au cours de divers règlements de compte. Dans un petit instant, la suite de notre émission spéciale consacrée aux évasions les plus spectaculaires. On retrouve Franck Sénateur avec l'histoire qui n'est pas une histoire belge, mais qui s'est déroulée en Belgique. parce que une des prisons belges a accueilli un jour un véritable roi de l'évasion. Il s'appelle Nordine Benalal.
Votre métier, c'est de faire de délicieux croissants, de coiffer ces dames ou de créer de jolis bouquets. Le nôtre, c'est de vous proposer les meilleures solutions en matière d'énergie.
Votre conseiller EDF Pro vous aide à réaliser des économies d'énergie. Plus d'informations au 0810 333 776 et sur edfpro.fr. Prix d'un appel local, hors surcoût éventuel selon l'opérateur. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
L'heure du crime sur RTL.
Nous retrouvons Franck Sénateur et ses histoires, ses belles histoires de d'évasion racontées dans son livre qui vient de paraître Planète évadée. Alors maintenant, on va mettre le curseur temporel sur la date du 28 octobre 2007. Nous sommes en Belgique, dans la prison d'Ittre. C'est ce jour-là la quatrième évasion spectaculaire d'un autre donc roi de la Belle qui s'appelle Nordine Benalal. Avant de commenter cette affaire et de vous raconter la véritable histoire de ce roi de l'évasion avec Franck Sénateur, je voudrais qu'on entende un document RTL. En fait, c'est le journaliste de Belle RTL, RTL en Belgique donc, Olivier Patzelt, qui raconte les circonstances dès le lendemain sur notre antenne.
18h30 hier soir, un hélicoptère survole la cour de la prison. À son bord, un ou plusieurs complices du truand et le pilote, qui sous la menace d'une arme, a été obligé de poser son appareil. Un détenu profite de l'occasion pour grimper dans l'hélico, mais il sera éjecté par les complices de Benalal pour permettre au truand de prendre place. Pas de chance, au moment de décoller, une dizaine d'autres détenus s'accrochent à l'appareil. Déséquilibré, l'hélico s'écrase contre le mur. Benalal parvient à se dégager de la cabine et prend un gardien en otage. Les plans d'évasion sont complètement chamboulés, mais le roi de la cavale ne se démonte pas. Avec un complice, il s'empare d'une voiture et prend la fuite avec leur otage. Le gardien sera retrouvé assommé peu de temps après. Lancé aux trousses des malfrats, les policiers repèrent la voiture abandonnée dans un champ, mais aucune trace de Benalal. Il est toujours recherché par toutes les polices belges.
Alors évidemment, c'est un papier qui date du 28 octobre 2007 et en fait, le roi de l'évasion va être repris, lui non plus, il n'est pas très doué pour la cavale, il va être repris 48 heures plus tard au cours d'un hold-up dans un magasin de motos. Il adore les motos, hein. Donc il se fait prendre aux Pays-Bas, dans la ville de La Haye, en plein braquage. Alors, on va s'arrêter quelques instants sur ce personnage, Franck Sénateur, parce que l'histoire est très riche et puis vous publiez beaucoup de documents à propos de cet homme. Qui est-il ?
Ben, au départ, c'est un garçon, on va dire, un peu turbulent. C'est un jeune qui peut être un peu vif et qui fait partie d'une fratrie maghrébine où tous, il faut le signaler, tous les frères et sœurs ont réussi et ont une vie sociale qui est tout à fait classique. Mmh. Et ce garçon-là, donc, va partir. Souvent, il y a un élément déclencheur. Alors, est-ce qu'il s'agit de personnalités qui peuvent être un peu fragiles ou pas, mais toujours est-il qu'il y a souvent un élément déclencheur sur une injustice. Une injustice qui va être particulièrement mal vécue. Donc là, c'est à l'école. Et donc, ça débouche sur une forme de violence. Cette violence va ensuite déboucher sur l'engrenage de la répression. Mmh. Et si, comme ça arrive quelquefois, on s'en aperçoit en étudiant ces cas-là, la première condamnation est très lourde, Elle a effectivement le sentiment d'être injuste, et à partir de là, donc, l'incycle est mis en place.
On disait dans le temps l'école du crime, hein, on en parlait hors micro, mais
malheureusement,
voilà, on y est bien, hein, quand même. Ouais. Alors donc lui, mais évidemment, ce sont des personnalités très très particulières, ce dont vous parlez dans votre livre, parce que une chose est d'être révolté, une autre chose est de réussir ses évasions. Il va le faire 4 fois quand même. Hein.
Alors effectivement, bon, il y a l'aspect révolte que vous évoquez. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit Nordine Benalal, que ce soit Pascal Payet, sur effectivement lequel on peut revenir, ou Antonio Ferrara, on va avoir des personnages qui vont subir, et je pèse un peu mes mots, une incarcération particulièrement lourde et particulièrement difficile. Alors, je ne cherche pas à les excuser. Je dis simplement que les conditions d'incarcération vont être terribles. Vous savez que les quartiers de haute sécurité, donc, sur lesquels Jacques Mesrine s'était battu, donc, ont disparu. Par contre, ils ont été remplacés par d'autres systèmes. La société a peur des récidivistes. C'est une grande classique. Et dans le cadre de l'évasion, c'est particulièrement vrai. À partir de là, donc, le système va être de plus en plus lourd, de plus en plus terrible. Et par contre, il va entretenir lui-même sa propre faille, puisque donc Nordine Belhalal écrivait dans un journal il y a très peu de temps un mot qui est tout à fait simple mais qui permet de comprendre le truc. Il dit, voilà, la question de la prison, c'est vraiment très simple. Dans cet environnement, il n'y a pas 10 000 options. Pour être franc, il y en a 3. Soit tu deviens fou, soit tu te suicides, soit tu t'évades. Vraiment très simple.
Voilà, et sans commentaire, et je vous renvoie au livre évidemment de Frank Sénateur, qui est, ne parle pas que d'histoire française ou européenne, hein. On peut le dire, vous parlez aussi de Charles Sobhrage, celui qu'on a appelé le serpent, on a raconté son histoire ici dans cette émission en quelques temps, qui se trouve en prison au Népal, condamné à vie. Hein,
tout à fait.
Bon, et les Népalais comptent bien le garder le plus longtemps possible. Vous parlez des évasions en Afrique également, et notamment des évasions liées à des mouvements, des révolutions diverses. Et puis, quand vous revenez en France, il est difficile de ne pas évoquer l'évasion de Jean-Pierre Trébert, dont on sait qu'il s'est suicidé par la suite dans sa prison. Comment s'était-il évadé ? Il s'était évadé d'une façon... j'allais dire, avec une simplicité déconcertante. On va se rafraîchir la mémoire avec le commentaire à l'époque d'une journaliste d'RTL, Myriam Alma.
Oui, une évasion à l'ancienne, pas d'hélicoptère, pas de coup de feu. Jean-Pierre Trébert s'est tout simplement caché dans un carton. C'est l'hypothèse la plus probable. Il aurait quitté la prison à bord d'un camion de livraison à 10h30 le matin. Et le plus étonnant, c'est qu'il a fallu près de 7 heures au personnel pour s'en apercevoir. Il y a eu dysfonctionnement, selon une source pénitentiaire. Son absence a bien été constatée en fin de matinée lors de l'appel. Un surveillant s'est rendu dans sa cellule, mais là, un co-détenu lui aurait affirmé que Jean-Pierre Trébert se trouvait en extraction judiciaire pour un rendez-vous chez le juge, information qui n'aurait pas été vérifiée. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, au moment du deuxième appel, que son absence a été signalée. Branle-bas de combat, fouille immédiate de l'établissement, personne. On se tourne alors vers le camion de livraison. Le chauffeur parle effectivement d'un trou dans la bâche et de carton écrasé. Selon une autre source pénitentiaire, cet employé d'une société privée l'a constaté dès son arrivée à destination, mais lui non plus n'a pas donné l'alerte.
Nous allons faire une dernière pause dans cette émission. On retrouve ensuite mon invité Frank Sénateur et nous revenons pour la fin de cette émission à ce que je vous annonçais au tout début, c'est-à-dire à l'évasion peut-être réussie, la seule sur 14 réussie en 25 ans, à Alcatraz aux États-Unis.
Votre métier, c'est de faire de délicieux croissants, de coiffer ses dames ou de créer de jolis bouquets. Le nôtre, c'est de vous proposer les meilleures solutions en matière d'énergie.
Votre conseiller EDF Pro vous aide à réaliser des économies d'énergie. Plus d'informations au 0810 333 776 et sur edfpro.fr. Prix d'un appel local, hors surcoût éventuel selon l'opérateur. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et pour cette dernière partie de l'émission, nous retrouvons bien sûr mon invité, Frank Sénateur. Si vous prenez l'émission en cours, il faut savoir qu'il est enseignant, passionné d'histoire sociale et spécialiste en histoire pénitentiaire. Il est d'ailleurs le président d'une association dont on n'a pas parlé encore, mais on dira un petit mot tout à l'heure, avant la fin de l'émission, sur l'association Fatalitas. Donc ça, c'est Chéri Bibi, hein, c'est ça, Fatalitas. Et c'est une association pour l'histoire et l'étude des établissements pénitentiaires de métropole et d'outre-mer. Donc, on comprend, Frank Sénateur, évidemment, que pour votre livre « Planète évadée », vous aviez accès à toute la documentation possible sur les plus belles des évasions que vous avez réunies dans ce livre. On a commencé l'émission avec Alcatraz. Il faut rappeler que Alcatraz, aujourd'hui, c'est un complexe touristique. mais c'est aussi un site historique qui a fonctionné, je crois, pendant 29 ans, une des prisons les mieux gardées au monde, 14 tentatives d'évasion depuis entre son ouverture et l'année 1963, 14 tentatives menées par 36 candidats seulement. Et il y a eu plus de 1500 prisonniers qui sont succédés dans cette prison. On a dit, on va pas revenir sur l'histoire des requins, mais on a dit que vraiment personne ne pouvait s'échapper de là. Le régime de cette prison était très dur d'ailleurs. Également.
Oui, le régime est très dur. Il faut jamais en fait sortir, je pense, les histoires pénitentiaires de leur contexte social et politique. Et cette Amérique de la prohibition, cette Amérique des années 30 est une Amérique qui frappe fort. Les surveillants, les fonctionnaires qui sont envoyés à Alcatraz sont choisis pour être la plupart célibataires, pour être déjà des gens qui ont une nature en fait à pouvoir se coltiner avec ce que la société a de plus terrible.
Ouais. Alors, parmi toutes les tentatives d'évasion, il y en a quand même une qui pose question, parce que la version officielle, c'est que ben, ceux-là, comme les autres, ont dû donner à manger aux poissons, si vous me passez l'expression. C'est pas sûr, mais ce que je voudrais, c'est que vous nous racontiez dans quelles conditions ces trois hommes, Frank Morris et puis deux frères, John et Clarence Anglin, se sont évadés, véritablement, le 11 juin 1962. Ils ont disparu de leur cellule en pleine nuit. Et les surveillants n'en se sont pas rendus compte tout de suite parce qu'ils avaient imaginé un stratagème qui a fonctionné.
Voilà, il faut savoir que à Alcatraz, comme dans la plupart des prisons américaines, donc la porte de la cellule, contrairement à ce qui se pratique en Europe et en France en particulier, donc la porte de la cellule est complètement ouverte, ce n'est qu'une simple grille. Et donc le gardien qui fait sa ronde de nuit, en passant, va pouvoir observer effectivement et vérifier que tout se passe bien, c'est son rôle. Et là, donc, le stratagème, effectivement, que vous évoquez, c'est d'arriver à tromper la vigilance du garde et d'arriver à mettre au point un système qui soit minutieusement préparé, qui permette de ne laisser aucun détail de côté pour arriver à ce résultat.
Oui, parce que le gardien qui fait sa ronde, il éclaire donc le lit des trois cellules et il y a quelqu'un dedans.
Voilà.
Tiens, mais il devine même un visage avec des cheveux et tout. C'est qui ?
C'est ça. C'est-à-dire que quelques mois auparavant, quand les trois compères donc ont décidé de monter cette cavale, donc comme par hasard, un des deux frères Anglin effectivement s'est trouvé une passion pour la peinture et donc bon, pour arriver à calmer effectivement et puis à occuper cette oisiveté, on lui a fourni papier, pinceau, peinture et il s'est ingénié pendant quelques semaines à refabriquer et à peindre donc des têtes en papier peint, en papier mâché. Ouais. Que Maurice, donc, agrémenté de vrais cheveux qu'il allait voler.
Chez le coiffeur, oui. Voilà, le coiffeur de la ville.
Donc là, on est dans le souci du détail.
Attendez, c'est extraordinaire quand même. Bon. À part ça, ils ont, comment dire, ils se sont servis des bouches d'aération, enfin des circuits d'aération, non, de la prison pour partir par là, quoi. Et ils avaient peint une fausse grille aussi, d'ailleurs, sur le mur. Donc personne ne s'est jamais aperçu qu'il y avait un trou derrière la grille d'aération, quoi.
Le système est parfaitement rodé. Voilà, on voit que on a parlé tout à l'heure pour la réussite d'une évasion de la part de chance indéniable, mais il y a aussi effectivement une part de préparation. Ouais. Et là donc on est sur une évasion particulièrement bien préparée, particulièrement bien montée où tous les soucis comptent. Donc on repère, chacun a ses compétences et puis un des frères Anglin va lui, parce qu'il était dans la marine, dans l'US Navy, donc se rappeler des radeaux de sauvetage, les premiers radeaux gonflables donc qui existent à l'époque avec ce caoutchouc de l'époque. Ouais. Et va imaginer donc des supports pour les porter.
Et les supports, ils sont à sa disposition, ce sont des imperméables, je crois, non, qu'on fournit d'ailleurs aux prisonniers qui travaillent dehors, hein.
Voilà, tout naturellement. Ouais. Et bien sûr, c'est le cas encore de nos jours dans toutes les prisons, le travail donc des condamnés est destiné à être utile et utilisable.
Alors comme c'est de la toile extrêmement solide et totalement évidemment imperméable, il lui suffit de trouver de la colle et il va fabriquer des bateaux, quoi.
Voilà, ils vont fabriquer ces bateaux et ils vont disparaître donc effectivement, comme vous le soulignez, dans cette nuit de 1962 et peut-être ne jamais réapparaître.
Alors oui, mais vous laissez entendre dans votre récit que y aurait quelqu'un du FBI qui aurait laissé entendre un jour, off bien sûr, à des journalistes que peut-être l'un des trois s'en était sorti vivant.
Voilà, on pense effectivement, on les a jamais retrouvés de toute façon. Donc ça, c'est une donnée fondamentale. Et à partir de là, donc on peut effectivement imaginer, selon qu'on voit les verres à moitié pleins ou à moitié vides, qu'ils ont réussi leur cavale ou que, comme tous les autres postulants, ils ont disparu dans les flots glacés de la baie. Sachant que, et c'est un peu l'ironie de l'histoire, c'est que la première évasion qui a eu lieu en 1936, les deux évadés avaient disparu eux-mêmes. C'était donc Ted Cole et Ralph Rowe. Mmh. Et il faut savoir que donc c'était l'espoir de tous les condamnés d'Alcatraz, puisque donc tous les ans le directeur recevait une carte de vœux signé de ces deux-là, qui était évidemment une plaisanterie, voilà. Mais c'était entretenir une espèce de
des autres prisons, voilà, des voilà. Autres prisons où ils avaient été envoyés, ils avaient une carte de
vœux. Que voilà, il lui écrivait pour lui envoyer, pour leur envoyer ses vœux. Voilà.
Et il faut dire que plus tard, après cette évasion très spectaculaire, on a retrouvé dans la baie des vestes, des lettres, des photos qui flottaient. On a retrouvé même un cadavre revêtu de l'uniforme bleu des prisonniers, mais il était dans un tel état de décomposition qu'on n'a jamais pu vraiment identifier l'un des trois fugitifs. Et en fait, et c'est par là que je voudrais terminer en vous remerciant d'avoir accepté notre invitation. Le seul dont on soit sûr qu'il ait vraiment réussi à traverser la baie à la nage en 47 minutes, c'est un petit surdoué de la natation. Il avait 7 ans et il a réalisé son exploit sous l'œil des caméras d'une chaîne de télévision locale. C'était le 22 mai 2006. Qui dit mieux ? Peut-être certains des rois de la belle qui se trouvent dans ce livre. Planète évadée qui vient de paraître à la manufacture de livres. Merci Franck Sénateur.
Merci à vous.
Et dans un petit instant, nous allons retrouver bien sûr Flavie Flamand, si elle ne s'est pas évadée de son studio.